Chapitre 13. L'impératrice et la nourricière.
C'est elle! C'est elle!
Criaient les teinturiers et les teinturières sur le passage du carrosse.
Vive Diamante! Vive l'impératrice!
L'empereur ne jouissait pas d'une grande popularité au sein des corporations. Il était craint. Les compagnons étaient conscients des terribles privations que le Troisième Empire leur imposait. Pourtant, le grand principe d'égalité ne concernait guère ceux du château, et leur liberté apparaissait fort relative. Liberté de crever de faim, de trembler de peur, de se tuer au travail pour enrichir la banque du Nouveau Monde. L'impératrice Diamante, en revanche, trouvait grâce aux yeux de presque tous. De corporation en corporation, on racontait les fréquents voyages de l'impératrice hors de Paris. Ici, elle apportait des vêtements chauds à ceux qui souffraient du froid l'hiver. Ailleurs, elle offrait de la nourriture à quelques tribus affamées. Parfois, il ne s'agissait que de paroles de réconfort, mais toujours enveloppées de son sourire, de sa grâce et de sa générosité. On ne l'enviait pas, on l'admirait. Depuis un an, Constel lui avait consacré plus de 30 articles dans la feuille de chou, et le visage de l'impératrice s'affichait à la une du journal presque chaque semaine. Sans elle, qui sait si une révolution n'aurait pas couvé et si le Troisième Empire n'aurait pas déjà été renversé. Le carrosse doré progressait au ralenti dans les rues étroites du village de Chevreuse. Les 4 chevaux blancs qui le tiraient avançaient au pas, grignotant goulûment les carottes et les choux frisés que les passants leur tendaient. Quand le carrosse s'arrêta près de l'église, au bord de la fontaine, sur la grande place du village, une foule compacte se pressa, jouant des coudes pour s'approcher au plus près. Quelques gardes impériaux tentèrent d'écarter les badauds, mais une voix douce s'échappa de la fenêtre qui venait de s'ouvrir.
« Non, laissez-les. »
Les villageois virent d'abord un bras fin, nu, bronzé, ganté de dentelle jusqu'au coude, agitant avec délicatesse un éventail japonais. Quand la portière s'ouvrit, ils aperçurent un pied serti dans un escarpin doré se poser sur les pavés de la grande place, puis une jambe galbée, puis une seconde, et enfin une longue robe d'organza jaune pâle retombée en frou-frou jusqu'aux chevilles.
« Par toutes les couleurs du ciel !»
murmurèrent plusieurs teinturières.
« Qu'elle est belle !»«
Ah ça !» commentèrent d'autres assez bas pour que les soldats n'entendent pas. « Je veux bien passer mes journées dans un fauteuil roulant si je partage mes nuits avec une fille comme elle. »
Diamante portait un chapeau de paille tressé, rehaussé d'un ruban assorti d'organza et un panier d'osier à son bras. Elle commença par observer la place et s'extasia sur la beauté du site. Le village, avec ses bassins de teinture profond et rectangulaire d'indigo, de réséda, de cachou, de curcuma, où les villageois faisaient tremper toutes sortes de draps, serviettes et vêtements, ressemblait à une palette de peintres géantes. Elle resta de longues secondes à les admirer, sincèrement impressionnée. L'impératrice plongea enfin sa main dans son panier tout en faisant signe de s'approcher à Kamal, un teinturier au teint de crapaud mort. Il était responsable des teintures de rhubarbe et de thym.
« Tu as bonne mine, mon ami. Viens plus près. Je cherche une de vos compagnonnes. Prénommée Carmine. Peux-tu m'indiquer où elle habite ? »
Kamal, qui sous le coup de l'émotion avait viré couleur rainette cramoisie, désigna une petite chaumière au bord de la place.
« Merci, mon brave. Tu partageras cela avec tes compagnons. »
Elle fit pleuvoir dans sa main une vingtaine de quarts de lune. Une fortune. La foule se pressait maintenant devant la maison de Carmine, où l'impératrice était entrée depuis près d'une demi-heure, mais rien ne filtrait de la chaumière, porte fermée et volet clos. Carmine était une teinturière jolie et ronde. La peau de son visage, de ses mains et de ses bras, à force de baigner dans des bassins d'amandes fraîches, avait pris une douce teinte rose pastel. Si elle n'avait pas bougé de temps en temps les paupières, ou si elle était parvenue à faire cesser ses jambes de trembler, on aurait pu la prendre pour une poupée. Elle tenait entre ses mains un petit chiffon de coton rose qu'elle ne cessait de tortiller. Diamante se tenait face à elle, sur une simple chaise de bois. «
Comme je te l'explique, Carmine, je t'apporte une extraordinaire nouvelle. Tu as été choisie parmi 100, 1000, 10 000 compagnonnes. Je cherche partout, dans chaque corporation, des filles telles que toi. Mais il est rare que j'en trouve, avec un regard aussi tendre, une peau aussi douce, ce calme et ce sérieux qui se dégage de toi. Carmine roulait des yeux apeurés. Sa peau pastel prenait la teinte de celle d'un porcelet. J'ai parlé de toi à l'empereur. Il est d'accord. Tu vas devenir une de ses nourricières. L'impératrice posa sa main droite sur celle de Carmine, sa main gauche sur son genou pour qu'elle arrête de se balancer. « Bien entendu, tu ne te représentes pas encore ce que cela signifie. Tu vas devoir quitter ton village. Je sais que cela te sera difficile, mais tu vas aller habiter un palais, le plus beau palais de Paris, celui de l'empereur, et tu y rejoindras beaucoup d'autres filles comme toi, des nourricières. » Votre rôle sera très important, le plus important de l'Empire. C'est vous qui élèverez les enfants du Nouveau Monde. » Pour la première fois, une lueur d'envie aussi intense que celle de la peur traversa le regard de Carmine. « Il n'y a aucun piège, ma belle. Les premiers bébés qui naîtront dans le Nouveau Monde seront fragiles. Fragiles et précieux. Personne n'aura d'expérience pour s'occuper d'eux. Alors l'empereur veut former une corporation d'élite, préparée à accueillir ses futurs nouveau-nés. Comme dans une ruche, comme dans une fourmilière, les nourricières sont les membres les plus importants de la communauté, après la reine. »
« Et quand devrais-je partir ?» eut enfin la force de demander la teinturière.
Diamante attrapa les doigts de Carmine pour qu'il ne s'échappe pas. « Maintenant, je te laisse un quart d'heure pour rassembler tes affaires et je t'emmène. » En attendant que Carmine se prépare, Diamante s'offrit une promenade au milieu des bassins de teinture. Son émotion, quand elle était arrivée dans la vallée, n'était pas feinte. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau depuis des années. Les gardes impériaux formaient un cordon de sécurité autour d'elle pour empêcher la foule qui suivait chacun de ses pas de la bousculer. Régulièrement, pourtant, des teinturiers parvenaient à déjouer la vigilance des soldats et réclamait de l'impératrice une poignée de main, un baiser sur la joue, ou juste le privilège de la toucher. Elle se prêtait de bonne grâce à l'exercice, sans jamais se départir de son sourire. Une main, pourtant, l'accrocha plus longuement que les autres. Elle releva les yeux.
« Sacho ?»«
Je suis flatté, Majesté. Tu ne m'as pas oublié. »
Diamante ordonna à sa garde d'éloigner la foule quelques minutes, puis elle s'arrêta avec Sacho au bord du bassin de curcuma orangé. Sacho était un gitan, comme elle. Ils avaient parcouru des centaines de kilomètres ensemble, dans la même roulotte, tirée par Grove, leur fidèle jument. Grâce à l'influence de Diamante, les gitans étaient l'une des rares corporations à ne pas être assignées à un territoire et à avoir conservé son mode de vie nomade.
« Est-ce que je vois ?» fit Sacho sans détour. « Tu es passé de l'autre côté ?» Mano, lui, résiste. Il se bat contre l'Empire. Mais toi,
tais-toi, Sacho. Je pourrais te faire arrêter.
Tu ferais torturer ton vieux frère. Tu sais que je n'ai jamais fait de politique. Je suis juste surpris que tu aies pu devenir la potiche de ce dingue dans son fauteuil. Tu étais la plus déterminée d'entre nous. La plus forte, la plus indomptable.
Diamante jeta un regard furieux à Sacho. Qui te dit que je ne le suis plus ?
Parce que tu distribues des piécettes aux pauvres malheureux sur ton passage.
Parce que je rends l'Empire plus humain, moins douloureux.
J'aide les corporations plus que n'importe qui d'autre. Je passe mes journées à cela.
Sacho explosa de rire. Si tu y crois. Tiens, au fait, en souvenir de notre vieille amitié, j'ai un conseil à te donner.
Diamante se méfia. Sacho sentait l'orge brûlante et les effluves épicées du bassin de curcuma n'arrangeaient rien à son haleine.
« Je t'écoute. »
« Un conseil qui mérite une petite récompense. »
Diamante soupira. Elle tira de son sac à main une bourse de cuir.
« 50 lunes,
Ça ira.
Le titan parut impressionné, mais se reprit aussitôt. Salez-vous bien, Majesté. Tu cherches des nourricières, à ce qu'il paraît. Eh bien, je crois que tu n'as pas choisi la bonne.
Comment ça?
Des rumeurs circulent ici. Les gens ne sont pas bavards avec les étrangers en général, mais entre compagnons de la même corporation d'ivrogne, on se parle.
Il força à laisser filer un nouveau rire de sa bouche édentée. On raconte qu'un bébé est né dans le village. Personne n'a voulu me donner de nom ni d'adresse, tu t'en doutes. Mais tu dois pouvoir te renseigner. Tu disposes de quelques relations, non?
Bonjour, Carmine. Filhomme en blouse blanche. Trois lettres, SSS, étaient brodées sur sa manche. Avec son crâne rasé, sa silhouette de squelette et sa peau plus pâle qu'un drap, Carmine avait l'impression de se retrouver face à un fantôme. Seuls les yeux verts d'eau du médecin, tendres et clairs, contrastaient avec son allure de cadavre ambulant. La teinturière serrait toujours son chiffon de coton rose entre ses mains. Elle regardait, aussi impressionnée qu'effrayée, les murs nus de la petite cabine de 3 mètres sur 2 dans laquelle elle avait patienté en attendant le docteur. Du palais de l'empereur, elle n'avait eu le temps d'apercevoir que les marches du perron, un grand vestibule décoré de tableaux anciens, et cette minuscule pièce où l'impératrice l'avait immédiatement conduite. La route du village des teinturiers au palais avait été longue, mais Diamante avait conversé avec elle pendant tout le trajet, avec une incroyable simplicité, s'intéressant à elle, lui expliquant en détail le rôle d'une nourricière qui consistait à allaiter, changer des langes, préparer un biberon, bercer un bébé. Carmine avait aimé. « Je te présente Galien, » dit Diamante en invitant la teinturière à lui serrer la main. « Galien vient d'être promu par l'empereur lui-même, consul au progrès et à l'innovation impériale. Mais il est surtout le médecin du palais. C'est lui qui s'occupera de vous et des futurs bébés. Je te laisse avec lui. Il va te faire passer quelques examens médicaux. C'est important de vérifier que tu ne portes pas de maladie. Des microbes, des germes, tout ce qui pourrait être dangereux pour les nourrissons. Tu dois être, comment dire, pur. Tu comprends ?
Carmine hocha la tête, même si elle n'avait aucune idée de ce à quoi pouvaient ressembler des microbes ou des germes. L'impératrice disparut dans le vestibule, la laissant seule avec Galien.
« Va te déshabiller dans la cabine et enfile cette blouse blanche. Tu m'appelles quand tu es prête ?»
Avant de refermer la porte, le médecin ajouta avec un sourire inquiétant « Je te rassure, ensuite, tu porteras des vêtements bien plus séduisants. »«
C'est bon ?»
demanda Galien quelques minutes plus tard. Quand il ouvrit la seconde porte de la cabine, Carmine ne put retenir un mouvement de recul. Elle découvrait une pièce telle qu'elle n'en avait jamais vue. Des murs blancs, des lits métalliques, des tables de fer encombrées de cages, de seringues, de tubes de verre et de toute une série d'autres appareils étranges. Une odeur la révulsait, pire que celle des jarres d'essence de térébenthine utilisées dans son village pour teindre le bois. Elle alla même jusqu'à imaginer que les marques roses sur le carrelage clair étaient des taches de sang pas assez bien nettoyées.
« Tu n'as jamais vu un hôpital, n'est-ce pas? Ni même une salle d'opération ou un cabinet de médecin ?»
Carmine confirma d'un nouveau timide hochement de tête.
« N'aie pas peur, tu n'es plus une enfant. Pense à tous les compagnons qui n'auront jamais la chance de bénéficier de ces soins. Allonge-toi sur cette table. »
Avait-elle le choix ? La teinturière se hissa sur un lit métallique, très haut. Des tuyaux et des poches en plastique pendaient au-dessus de sa tête. L'odeur de plus en plus atroce de chlore et d'éther lui piquait la gorge et lui retournait le ventre.
« Détends-toi, Carmine. Je vais placer un coton sur ta bouche et ton nez. Dès que tu le sentiras, tu devras respirer le plus fort possible.
Pourquoi ?»
eut-elle le courage de demander.
« Pour t'endormir, pour que tu n'aies pas mal quand je vais t'examiner. Quand tu te réveilleras, tout sera terminé. »
Carmine n'eut pas le temps de réagir. Elle sentit simplement un tissu doux et mouillé se poser sur son visage, une sensation plutôt agréable. Elle crispa sa main sur son chiffon rose et, obéissante, prit une longue inspiration, puis eut l'impression
de s'endormir sans pouvoir résister. Sans doute était-ce cela, mourir.
Quand Carmine se réveilla, elle crut qu'elle rêvait. Ou qu'elle était montée au paradis, ce palais perché quelque part dans le ciel où l'on était emporté quand on mourait, d'après certaines légendes du village. Tout autour d'elle, ce n'était que beauté. Elle se trouvait dans une grande salle recouverte de tentures du sol au plafond. Les vitraux aux fenêtres couvraient de confettis colorés les tapis orientaux, les paravents ouvragés et les coussins éparpillés sur les matelas. Au centre de la pièce, un bassin d'eau claire était alimenté par une fontaine en faïence, surmontée d'un robinet en forme de cou de cygne. Aux quatre coins, entre les colonnes torsadées, des guirlandes de plantes exotiques pendaient, des fleurs comme elle n'en avait jamais vues, sans doute cultivées sous serre. Dans une alcôve voûtée, elle repéra une grande corbeille contenant des fruits dont elle avait seulement entendu parler sans jamais les goûter. Des oranges, des citrons, des melons. Carmine se frottait les yeux, persuadée qu'à force de les fermer et de les rouvrir, ce décor merveilleux finirait par disparaître. Elle sentit tout à coup un souffle chaud et doux caresser sa nuque. Elle n'était pas seule. Une fille se penchait vers elle.
« Bonjour !»
fit la créature du paradis.
« Tu es enfin réveillée ?»
La créature possédait des cheveux courts et un visage d'ange posé sur une jolie robe à fleurs.
« Je sais pas, » répondit Carmine. « Je suis morte, c'est ça ? Ou je rêve ?»«
Ni l'un ni l'autre, ma grande. Regarde-toi. »
La créature lui tendit un miroir doré. Carmine se regarda et faillit s'étouffer. Pendant son sommeil, on l'avait elle aussi habillée avec une robe taillée dans un tissu précieux et soyeux, une de ces tenues valant près de 30 lunes que seuls les riches singes et savantes pouvaient s'offrir. Elle prit le temps d'examiner les ballerines argentées à ses pieds, la ceinture aussi brillante que des écailles de truites arc-en-ciel, le collier de perles nacrées. Oui, c'était exactement cela. On l'avait transformée en princesse.
Des craquements sur le plancher verni, tels des pattes de souris dans un grenier, lui firent lever la tête. Carmine vit s'avancer vers elle une douzaine d'autres filles, toutes vêtues de tenues plus belles, élégantes et extravagantes les unes que les autres. « Je m'appelle Suzy, » continua la créature aux cheveux courts. « Mais tout le monde m'appelle Suzette la Pipelette, parce qu'on prétend que je suis bavarde. »
Elle sourit aux filles qui s'étaient approchées et désigna celle la plus proche, qui tenait un grand carton dans sa main.
« Je te présente Leonarda. Elle est très douée pour le dessin. Celle avec le collier de plumes s'appelle Cheyenne. La sportive derrière, c'est Florentine. La grande rigolote est Steve. Et la fille toute pâle aux ongles rongés, c'est Fanfan. Et comme tu ne vas pas retenir tous nos prénoms, je m'arrête là, mais sache que nous sommes 13 aujourd'hui. »
Carmine se recroquevilla sur son lit, serrant son carré de tissu rose que celui ou celle qui l'avait déshabillé et rhabillé avait eu la gentillesse de lui laisser.
« Oh !» « Où sommes-nous ? » demanda-t-elle.
Le sourire de Suzette s'effaça comme s'il était temps pour elle de cesser de jouer la comédie.
« En prison. Dans la prison personnelle et très, très privée de l'empereur. Bienvenue dans le sérail, ma chérie. »